Dieu est fidèle et franchement, c'est quelque chose que je sais dans mon cœur, dans ma tête. Mais chaque fois que j'arrive à expérimenter concrètement dans mes semaines la fidélité de Dieu, il y a quelque chose en moi qui fait « Waouh, c'est trop génial !» Vraiment, enfin, il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Et franchement, quand je me suis préparée pour ce matin, le thème que j'avais sur mon cœur, c'était « Un amour qui dure ». Et on pourrait dire aussi « Comment maintenir notre premier amour, notre passion pour Jésus ?» Ces derniers temps, j'étais souvent aux enfants, donc peu dans la salle de culte, mais quand j'ai écouté le culte de dimanche passé, j'avais déjà écrit mon message, et puis j'ai trouvé trop génial qu'il nous parle de l'adoration, et il l'a résumé en une seule phrase, « Adorer Dieu, c'est mettre Dieu à la première place ». Et pour moi, ça venait comme confirmer ce que j'avais déjà sur mon cœur, je me suis dit « Mais je crois vraiment que Dieu, tous ces derniers messages, que ce soit sur le service, sur l'adoration, sur le buisson ardent, il y a quelque chose que Dieu, il est là en train de pousser dans nos cœurs et puis qui veut vraiment nous interpeller ce matin. On a un groupe vie maintenant depuis à peu près 2 ans, je crois, chez nous. Et il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées dans notre groupe vie. De nouvelles personnes aussi qui étaient un peu nouvelles dans la foi, qui découvraient la foi. Et franchement, je trouvais ça juste tellement enthousiasmant. Parce que quasi chaque semaine... Il y en avait une qui venait pour dire « Ah, j'ai vécu quelque chose de génial avec Dieu, j'ai pu prier avec quelqu'un, j'ai pu témoigner, j'ai pu... » Ils nous partageaient des témoignages, puis chaque fois on était « Waouh, ça nous encourage, ça nous... » Puis en même temps, au fil des semaines, Dieu, il était vers moi, puis il me disait « Mais Catherine, et toi, c'est quand la dernière fois que tu as vraiment témoigné à ta voisine, à ton voisin ? Puis cette semaine, est-ce que tu as... aussi prier pour quelqu'un? Puis ton feu pour Jésus, il en est où? Ta passion pour Jésus, elle en est où? J'avais de la peine des fois à répondre à ces questions. Et puis Dieu, il a commencé à continuer à travailler en moi. Finalement, est-ce que je suis toujours fervente pour Dieu, comme au début? Est-ce que j'ai toujours du plaisir à prendre du temps pour passer dans sa présence? Est-ce que je suis toujours zélée et enthousiaste pour faire connaître Dieu autour de moi, pour partager ce que je vis? Est-ce que je suis toujours prête à faire du tri dans mes priorités? Quand je vois qu'il y a quelque chose qui me prend vraiment trop d'énergie, puis que finalement ça se met un petit peu en concurrence avec ce que j'ai envie de vivre avec Dieu, est-ce que je suis toujours prête à faire ce tri-là? Et puis, est-ce que je suis toujours prête à servir avec joie? Olivier nous avait parlé du service. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui bouillonne en moi? Et je pense qu'on a tous des tempéraments et des personnalités très différentes. Il y en a qui sont plutôt introvertis, d'autres ça bouge dans tous les sens. Il y en a qui sont très créatifs, puis d'autres c'est peut-être plutôt intellectuel. On est tous différents. Mais quand on a quelque chose qui bouillonne en nous, quand on découvre une passion, que ce soit pour un sport, pour un nouvel hobby, pour n'importe quoi, quand on tombe amoureux de quelqu'un, finalement, quand il y a de la passion qui vient dans nos cœurs, quels que soient nos tempéraments, nos personnalités, on finit par se ressembler. Parce que c'est dans notre cœur, puis on a envie d'en parler à tout le monde. Et puis il n'y a que ça dans nos conversations. Et puis ça transforme même notre visage. On voit qu'il y a quelque chose en nous qui vibre. Et puis on est capable de faire du ton dans nos agendas. Ah, ce soir, il y a le match suisse machin. Ou il y a un match de tennis pour certains. Ou d'autres choses. Mais ce n'est pas difficile. Le tri se fait tout seul dans nos agendas. Du coup, Dieu me dit et nous dit ce matin, est-ce que ma passion pour Jésus, elle est toujours là? Ou est-ce que je me suis installée dans un style de vie chrétien? Oui, j'ai des bonnes valeurs, je vais à l'église le dimanche, je fais ce qui est juste, je vais aux réunions, mais dans mon cœur, il n'y a plus rien qui vibre. Où est-ce qu'on en est? Et puis, c'est bien de faire le point sur où on en est, mais comment est-ce que je peux entretenir cette passion? Comment je peux la faire grandir pour Jésus? Alors ce matin, j'avais à cœur de vous parler d'un texte qui se trouve dans Apocalypse 2, les versets 1 à 7. Et c'est une lettre que Jésus adresse à l'église d'Éphèse au travers de l'apôtre Jean. Et on va la lire ensemble. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience. Et je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Et tu as de la patience et tu as supporté des afflictions pour mon nom. Tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Et fais les premières œuvres. Sinon, je viens à toi et j'ôterai ton chandelier de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci pour toi, que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. En fait, quand on lit le chapitre précédent, on comprend que c'est Jésus lui-même qui s'adresse à cette église et plus particulièrement à son responsable. Mais il s'adresse aussi à chaque membre de cette église, parce qu'à la fin, on lit à celui qui vaincra. Et je crois que Dieu, il ne nous voit pas seulement en groupe, il nous voit chacun particulièrement dans notre relation avec lui. Et ce matin, Dieu, il a vraiment un message pour chacun de nous. Alors, si on reprend un peu ce texte depuis le début, Dieu, Jésus, leur fait beaucoup d'éloges. Il commence « Je connais tes œuvres, ton travail et ta patience ». En fait, l'église d'Éphèse, c'est l'apôtre Paul qui est allé dans cette ville pour parler de Jésus. Et il y a eu un immense réveil. On peut le lire dans Acte 19. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait des linges et des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les malades les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Et à peine plus loin, beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On calcula la valeur de ces livres et on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. Et c'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Les Éphésiens, c'étaient des gens passionnés. Passionnés pour Jésus qui avait changé leur vie et aucun sacrifice n'était trop difficile pour eux. Ils étaient prêts à même se débarrasser d'objets, même coûteux, juste pour pouvoir maintenir cet amour et cette présence de Dieu en eux. Et Jésus a pu leur dire, je connais tes œuvres, il les félicite pour leur travail et leur persévérance. Et puis Jésus les félicite aussi pour leur capacité à se séparer du mal. En fait, Éphèse, c'était une ville très commerciale, un peu une plaque tournante au niveau du commerce à l'époque, mais c'était surtout une ville qui avait un énorme temple, qui était considéré dans les sept merveilles du monde ancien. Donc, en principe, vous devriez voir, le temple d'Éphèse, qui était vraiment grand parce qu'il y avait une déesse qui s'appelait soit la déesse Diane ou la déesse Artemis, qui était la déesse de la fertilité. Et il y avait énormément de gens qui venaient dans cette ville pour ce culte-là, et puis finalement ce culte il amenait beaucoup d'immoralité, beaucoup de pratiques qui n'étaient pas justes, mais l'église d'Éphèse a su transformer leur vie, leurs valeurs, et puis s'aligner à la parole de Dieu plutôt qu'au monde ambiant, et définir le bien et le mal avec la parole de Dieu plutôt qu'au niveau de la société de ce qui se faisait. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. C'était une église aussi qui connaissait sa parole, qui ne gobait pas n'importe quel enseignement, mais qui avait du discernement. Encore au verset 3, tu as de la patience, tu as supporté les afflictions pour mon nom et tu ne t'es pas lassé. C'est une église qui a rencontré de la persécution, de l'opposition. À cause de ce temple, il y avait beaucoup d'orfèvres qui faisaient des mini-temples en miniature pour vendre. Et c'était tout un commerce. Et en fait, un bijoutier a soulevé toute la ville contre Paul et ses compagnons parce qu'ils avaient peur de perdre leurs gains et leurs revenus finalement en vendant ça. Donc vraiment, c'est une église qui a dû endurer la persécution et l'opposition. Mais ils sont restés fermes, ils ont tenu bon. Et en fait, si on s'arrête là, franchement, moi, je serais fière de recevoir toutes ces éloges. Il y en a beaucoup. Et puis, on pourrait se dire, c'est une église qui va bien. Les gens qui vont là-bas, ils sont droits, ils sont justes, ils sont persévérants, zélés. Puis Jésus, il continue. J'ai contre toi que tu as abandonné mon premier amour, ton premier amour. Il fait un constat. Alors, il ne faut pas imaginer Jésus qui vient avec un bâton pour les punir, pour les sermonner et tout ça. Parce que dans Éphésiens, c'est écrit que Jésus, il veut œuvrer en nous pour nous rendre sans tache, sans ride, saints et irrépréhensibles. Le cœur de Jésus, c'est de nous amener plus loin dans notre passion pour lui, dans notre consécration à lui. Et il voit au-delà de ce qu'on fait, il voit notre cœur. Et puis la même chose que des fois, quand on a des enfants, ben, on doit les recadrer pour les faire grandir, puis ce n'est pas toujours agréable, ni pour eux, ni pour nous. Là, c'est la même chose. Jésus, il fait un constat pour nous recadrer, nous réaligner. Pour ceux qui étaient là dimanche passé, Samuel, il a parlé du pharisien et du collecteur d'impôts qui sont allés dans le temple. Si vous vous rappelez, ce pharisien qui était là tout fier, je jeûne deux fois par semaine, je paye ma dîme, et puis il était fier de lui. Mais Jésus, il a dit, quand il est parti du temple, il n'était pas justifié, parce que son cœur était devenu orgueilleux. C'est le collecteur d'impôts qui n'avait aucune œuvre pour lui qui a été justifié, parce qu'il était là avec un cœur sincère, un cœur contrit. Et Jésus, ce matin, il cherche notre cœur. Il regarde au-delà des apparences, au-delà de tout ce qu'on peut faire pour lui. Donc voilà ce constat. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Moi, j'ai souvent entendu dire tu as perdu ton premier amour. Mais quand on perd quelque chose, on ne fait pas exprès. Tout d'un coup, il y a nos clés qui tombent de notre poche, de notre sac, ou on oublie une écharpe à quelque part. Ou... On ne fait pas exprès. On a perdu. Oh mince, zut, c'est embêtant. Mais dans le mot abandonner, il y a comme un choix derrière, plus ou moins conscient, mais il y a un choix. Et moi, je me rappelle à l'école, quand on devait faire nos 20 minutes de course, alors mes grands, ils rient parce qu'ils font une heure, hein, voilà. C'est des jeunes ados, mais moi, déjà rien que 20 minutes autour d'un terrain, je trouvais ça tellement pas intéressant. Puis au bout d'un moment, pff, j'en peux plus, j'abandonne, j'arrête de courir, quoi. C'est trop difficile, ça devient trop pesant. Mais des fois, j'entends aussi mes jeunes qui disent devant un problème de maths insoluble, oh, j'abandonne, on verra bien, c'est trop difficile. On peut abandonner parce que c'est difficile ou trop lourd ou trop pesant. Puis on peut aussi abandonner parce qu'on voit quelque chose qui nous attire plus. Souvent avec les enfants, s'ils jouent avec quelque chose qui est peut-être un peu dangereux, ils ont quelque chose dans les mains, on leur dit « Allez, donne-moi ton jouet ou donne-moi cet iPhone qui va se casser et tout ça. » Ils disent « Non, 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 ils se tiennent. » Après, on arrive avec une belle glace, bien bonne. Et puis, ça devient plus attrayant. J'ai les mains prises, mince. Je laisse ce que j'ai dans mes mains pour saisir la glace. Puis ça, c'est aussi un abandon, un choix, finalement. Ils ne se rendent peut-être pas compte, mais on voit quelque chose qu'on apprécie plus et on le prend. Alors, cette église d'Éphèse, ben, on ne sait pas trop pourquoi ils ont abandonné leur passion. Peut-être qu'ils étaient toujours fidèles, ils étaient toujours là, prêts à faire des sacrifices, toujours accrochés dans la parole, à faire. Mais au-dedans d'eux, ça ne vivrait plus la même chose. Et Jésus, il nous demande ce matin, et au-dedans de toi, au-dedans de moi, comment est l'état de ton cœur? Est-ce que ça vibre toujours pour Jésus? Est-ce que j'ai toujours le même enthousiasme quand je viens à l'église? Ou bien est-ce que c'est dimanche, alors j'y vais, quoi? On ne se pose même plus la question. Est-ce qu'en moi, il y a toujours ce feu, cette joie pour aller dans sa présence, pour prendre du temps avec lui? Où est-ce que j'en suis? C'est vite fait de glisser de l'enthousiasme du début à des habitudes religieuses. Puis on fait les choses parce qu'on les fait. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, nous rappelle que sans l'amour, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Sans l'amour, sans cette relation passionnée, amoureuse pour Jésus, si ce n'est pas ça qui soutient ce qu'on fait, nos œuvres, elles ne vont servir à rien. Et quelqu'un a demandé à Jésus, mais finalement, quel est le plus grand commandement de la loi? Et on peut le voir dans Matthieu 22, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. De tout, il n'y a pas de place pour autre chose. C'est une bonne définition de l'amour, c'est pas juste faire des choses, obéir à ses commandements, faire ci, faire ça. Non, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu seras passionné pour lui, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Être passionné pour Jésus, on peut résumer, c'est qu'on rien ne peut passer avant lui. ni mon travail, ni mes urgences, ni mes loisirs, ni ma famille, ni mon groupe vie, ni les célébrations. C'est Dieu, Dieu en premier, en nous, dans notre cœur. Le roi David était un homme qui aimait passionnément Jésus. Enfin, Dieu, Jésus n'était pas encore là. Mais il avait soif de lui. Son cœur était passionné. Et on peut voir dans le psaume 27, il va écrire « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Et moi, ce qui me parle là-dedans, c'est il n'avait pas juste soif de la présence de Dieu pour dire « Oh Seigneur, tu sais, j'ai un problème ici, j'ai besoin d'aide là, et puis là, j'aurai des besoins, et puis là aussi. » Puis finalement, on va vers Dieu parce qu'on a tellement de besoins et on demande. Non, il allait dans sa présence pour contempler sa face. C'était juste désintéressé, c'était juste entièrement tourné vers Dieu et pas sur lui. Et nous, comment on s'approche de Dieu quand on va dans sa présence? Est-ce que on est autant amoureux de Dieu que David? Et on sait que quelqu'un qui est amoureux, il est prêt à faire des kilomètres pour aller voir sa douce ou son l'élu de son cœur, même pas très longtemps. On est prêt à faire, je vise personne, on est prêt à faire de la place dans son agenda. Quand on est amoureux, il y a des choses qui se mettent en place. Et Dieu, c'est la personne la plus extraordinaire de l'univers et il désire être aimé passionnément par nous. Mais en fait, dans Matthieu 7, on peut lire un texte un peu surprenant. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et moi, quand je lis ça, je me dis, waouh, on peut faire des miracles. En ayant perdu cette intimité, ce cœur à cœur avec Dieu, qui nous permet d'être connus de lui. Enfin, je trouve ça, waouh. Heureusement, la Bible, elle dit aussi, si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. On revient sur le terrain de l'amour. Si on aime Dieu, il peut nous connaître. En fait, quand on a des enfants, je ne sais pas vous, mais je pense que vous êtes un peu comme moi quand même. Moi, quand ils rentrent de l'école, ben, je leur demande alors, salut, ça va? Comment a été ta journée? Comment ça s'est passé? Puis j'ai du plaisir à écouter leur cœur. Puis des fois, c'est oui, ça va. Puis ils s'enfilent dans leur chambre. Puis t'es, ouais, bon, d'accord. Puis des fois, ils partagent plus. Moi, je suis très service rendu. Donc, quand ils m'aident à la cuisine, j'aime bien. S'ils viennent m'aider à débarrasser le lave-vaisselle, mettre la table, ça m'aide. Je me sens aimée. J'aime bien ça. Mais franchement, ce que j'aime le plus, c'est quand ils partagent leur cœur. C'est quand ils viennent et ils me disent « Ouais, maman, tu sais, j'ai un souci, je me pose ça comme question. » Ou bien « Ah, j'ai vécu quelque chose de génial. » Puis qu'ils me partagent ça. J'aime ces cœurs à cœur. Puis je pense que Dieu, il est la même chose. Certainement, il apprécie quand on le sert. Puisque aimer Dieu, c'est aussi obéir à ses commandements. Il aime ça. Mais ce qu'il a vraiment envie, c'est un cœur à cœur avec nous. C'est qu'on soit passionné par qui il est et qu'on aime venir dans sa présence. Alors, dans Éphésiens 5, on peut lire « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour. » De même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Et ce texte nous dit que l'amour devrait être notre marque de fabrique. Quand il n'y a plus d'amour qui soutient nos actes, on va vite devenir dur et froid. On va vouloir préserver la saine doctrine, on va vouloir préserver la morale pure, on va devenir cassant, jugeant vers les gens. Sans amour, on va vite tomber dans la loi. Tu dois pas. On tombe dans le légalisme, dans la religiosité. On devient froid, cassant pour les autres. Mais Dieu est amour et il nous pousse à nous aimer les uns les autres. Et je pense que c'est pour ça que Jésus fait ce reproche à l'église d'Éphèse. Ils avaient abandonné leur premier amour. Ils avaient abandonné leur passion pour Jésus. La source de tout ce qu'ils faisaient, elle n'était plus là. Et je pense qu'il nous demande ce matin aussi de faire un retour en nous. Quelle est la source de ce qu'on fait? Quelle est la source même de notre foi? Ça doit être l'amour. Alors, ben, ok, comment on va plus loin avec ça? Comment est-ce qu'on peut maintenir cette flamme, cette passion pour Jésus? Et puis si on a l'impression de l'avoir lâchée à quelque part, ben, comment la retrouver? Et moi, j'ai une bonne nouvelle, parce que Jésus, il nous propose une solution. Il nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et fais les premières œuvres. Moi, je suis convaincue, si Jésus nous propose un chemin de retour en trois étapes, c'est qu'il y a une solution, il y a une espérance. Ça doit nous pousser en avant. Souviens-toi, c'est dans l'être. En fait, Jésus nous dit de nous souvenir comment est-ce qu'on était au début, qu'on l'a accepté dans notre vie. C'est pas juste pour se dire, oh ouais, c'est vrai, là maintenant, c'est juste nul ce que je vis. Ça, c'était le bon vieux temps, puis on commence à déprimer, puis non. Se souvenir des choses anciennes pour se rappeler que c'est possible, ça réactive aussi nos émotions, ça réactive notre enthousiasme. Et comme Bob l'a dit avant, on est plusieurs à faire le cours pour couple, elle et lui. Et dans les premiers exercices, on devait se souvenir des activités qu'on faisait ensemble quand on fréquentait, se souvenir des meilleures vacances qu'on a passées ensemble. Et puis, le souvenir a une force juste incroyable de se dire, oui, c'est possible, on a vécu du bon temps, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas retrouver cette flamme-là. Mais des fois, quand on est marié, ben, au début, voilà, on est tout feu, tout flamme, puis après, il y a les enfants qui arrivent, et puis avec les enfants, c'est beaucoup de défis, puis beaucoup de préoccupations, puis après, ils grandissent, et puis il y a le foot, et puis il y a la guitare, et puis il y a ci, puis il y a ça, et puis... Et puis des fois, c'est même pas les enfants, c'est le mari ou la femme qui a une promotion dans son travail, puis qui a quelque chose de plus prenant. Et puis ça vient bouleverser notre organisation. Et puis du coup, bah, petit à petit, nos conversations avec notre conjoint, c'est « Oui, salut, ça va? Tu rentres à quelle heure? Je te fais à dîner? Pas? Non? Et puis est-ce que tu peux amener lui au foot? Parce que moi, je dois amener l'autre. » Et puis finalement, tout ce qu'on se dit, bah, c'est vite fait glisser dans l'organisationnel, dans le... C'est pas qu'il y a des conflits, c'est pas qu'on s'aime plus, c'est pas que... Mais c'est juste, voilà, on est centré sur ce qu'on doit faire, plutôt que de continuer à maintenir la flamme pour notre conjoint. Mais dans la foi, c'est la même chose. On peut dire, ah oui, la semaine prochaine, j'ai le groupe vie, ouais, c'est à moi de préparer, bon, alors il faut que je réfléchisse à ça, et puis, ah, puis je suis loin, je dimanche, ah oui, il faut vite que je fasse ma liste de chants, et puis que je répète, et puis, ah, puis il y a encore ça que je dois préparer, ah ouais, les cours baptême, oui, ben, il faut que je réimprime mes trucs et tout ça. Puis, c'est vite fait, on glisse dans le faire. Et puis, est-ce qu'on a toujours cette intimité avec Dieu qui fonde tout ça? Dans la Bible, on voit que Dieu, il a souvent demandé à son peuple de faire des autels. Chaque fois que Dieu apparaissait à quelqu'un et lui parlait profondément, il lui disait, prends des pierres, puis érige un autel de souvenirs. C'est pour te rappeler que tu repasseras dans ce lieu, tu diras, ah ouais, c'est vrai, le Seigneur m'a délivré des ennemis, il a ouvert la mer, il a fait des miracles, il m'a parlé personnellement. Je crois vraiment que quand il nous dit, souviens-toi, il y a une force dans le souvenir. Une force, on peut bâtir dessus, on peut bâtir sur la fidélité de Dieu. Puis la deuxième étape, c'est souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Et c'est un retour à notre premier amour, à notre passion. C'est une tristesse. On doit réaliser, ah ouais, ben là, petit à petit, je tenais Dieu par la main. Enfin, c'est lui qui me tenait par la main. Et puis, petit à petit, j'ai lâché. Et puis, j'ai changé un peu de trajectoire parce que là, c'était un peu plus intéressant. Et puis, Dieu nous dit, ben, repends-toi. Reviens là où tu m'as lâché. Puis des fois, on voit la repentance comme on va dans une direction et puis hop, on fait un volte-face comme les conversions à ski. Hein. Il n'y a plus de possibilité, on ne sait plus comment tourner, on fait une conversion, on retourne de l'autre côté. Mais des fois, ce n'est pas forcément un virage à 180 degrés, c'est juste un réajustement. On est, ah ouais, ma boussole, elle me dit, là, si je continue comme ça, si on est dans le désert et puis qu'on veut aller vers l'oasis, ah mince, il me manque 3-4 degrés pour arriver là où on veut aller. Bah, si on fait une conversion à 180 degrés, on sera toujours dans la mauvaise direction. Des fois, c'est juste réajuster notre tir. Et Dieu nous dit, mais repends-toi, refixe tes regards sur moi et je te donnerai la bonne direction. Dieu est amour et on peut lire dans Romains 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je crois que si on veut retrouver notre passion, que ce soit pour Dieu, pour notre conjoint, on doit revenir à la source de l'amour. Et on doit vraiment se mettre à genoux et crier à lui. Et finalement, fais tes premières œuvres. Pratique de nouveau tes premières œuvres, réactive-les. Rappelle-les à la surface. Mais en préparant ça, je me suis dit, mais finalement, c'était quoi nos premières œuvres ? Et puis j'ai reçu comme une révélation, enfin, Dieu me disait, mais en fait, tes premières œuvres, c'était d'accepter mon salut. C'était pas de faire. C'était pas de faire. On peut lire dans Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit de vos œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a de raison de se vanter. Et je me suis dit, ben c'est vrai, nos premières œuvres, ça a juste été de réaliser l'amour que Dieu avait pour nous, tout ce qu'il voulait déverser dans nos cœurs, tout ce qu'il a fait par sa mort, par sa résurrection. Et puis, quand on pense à tout ça, ben, nos cœurs se remplissent de reconnaissance. Et y a de la joie qui nous envahit. On peut de nouveau chanter ses louanges. Et moi, je me rappelle que vers 18 ans, j'avais fait un con chrétien. Et j'avais déjà accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, c'était bon. Mais il y a quelqu'un qui m'a défié et qui m'a dit, est-ce que tu arrives à prier pour dire merci Seigneur parce que tu m'aimes? Là, c'était plus difficile. J'ai lutté plusieurs jours pour dire, ok Seigneur, merci parce que tu m'aimes moi. J'étais déjà sauvée, j'avais déjà accepté son salut, mais merci Seigneur parce que tu m'aimes moi. Et quand j'ai pu lâcher cette phrase, mais il y a une joie qui est venue en moi, une libération, une guérison. Je pense que toute la nuit, j'ai chanté les louanges de Dieu. Je n'ai pas bien dormi, j'étais tout le temps en train de me réveiller, mais chaque fois que je me réveillais, j'avais des chants de louanges dans la tête. C'était juste waouh! Et ce matin, je crois que Dieu, il veut nous faire revivre ça. Il veut nous reconnecter à lui. Et il nous demande à chacun de nous, comment se porte ta passion pour moi? Où est la joie dans ton cœur lorsque tu me sers? M'aimes-tu toujours autant? Et j'aimerais qu'on puisse prendre une ou deux minutes, peut-être juste pour chacun se poser devant Dieu. Où est ta passion pour moi ce matin? Et quand je priais encore par rapport à ça hier soir, j'avais l'impression que peut-être certains, ils se disent, ben, la foi c'est juste faire, faire, faire. Peut-être qu'ils ont été invités ici ce matin, et puis ils ont une image de l'Église, de la foi en Jésus, où c'est, ouf, si je dis oui, alors je ne pourrais plus rien faire. Et peut-être que ce matin, au travers de ce que j'ai dit, vous avez juste compris que c'est différent. Ce n'est pas à nous de faire, c'est Dieu qui vient, qui nous a aimés tellement et qui veut déverser son amour en chacun de nous, qui veut juste nous inonder tellement, tellement, que nos vies seront transformées, comme on l'a chanté, que nos vies seront libérées, qu'il y aura des guérisons, des miracles déjà en nous et après au travers de nous. Mais en chantant, j'avais vraiment c'était comme si le Saint-Esprit me disait, oui, tout ce que tu chantes, c'est juste, mais il ne va pas pouvoir le faire si tu ne donnes pas ton accord. Il ne va pas libérer ta vie, la transformer, si tu ne peux pas dire, oui Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Et j'aimerais vraiment prier. prier ce matin pour les gens qui auraient pu avoir cette révélation de ce matin, ouais, je comprends quelque chose. Dieu, il m'aime. Et je peux répondre par ma passion pour lui. Je peux répondre en disant, oui Seigneur, juste toi dans mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je vais déjà prier pour ces gens-là. Puis j'aimerais vraiment... Ouais, mais je vais déjà prier. Seigneur, je sens vraiment dans mon cœur que... Ah, parfois on a une tellement mauvaise image de toi. On a l'impression que... qu'en t'acceptant dans nos vies, tu vas faire un tel coup de balai qu'il va rester plus rien. Et puis qu'on va tout perdre. Puis Seigneur... Je te prie de déverser ton amour en chacun de nous ce matin. Cette compréhension que tu nous aimes, que tu as déjà tout fait pour nous sauver de notre péché, pour nous sauver de ce qui nous entrave, de ce qui nous lie, de ce qui est compliqué et difficile dans nos vies. Tu as déjà tout fait. Tu es mort à la croix pour nous. Tu es ressuscité pour nous. Pour qu'on puisse... revenir dans la maison du Père avec toi, main dans la main avec toi. Et Seigneur, je te prie pour toutes les personnes ce matin qui réalisent que non, c'est pas juste un coup de balai que tu veux faire dans nos vies, mais tu veux nous aimer. Et on peut juste accepter et te dire merci Seigneur parce que tu veux nous aimer. Et puis moi, je veux t'aimer en retour. Je veux te faire confiance. Je veux te laisser agir dans ma vie, me transformer. Je veux pouvoir dire que ta volonté soit faite dans ma vie et non la mienne. Et accepter que tu vas le faire gentiment, dans l'ordre, avec notre consentement, avec notre amour. Puis Seigneur, j'aimerais te prier aussi pour ceux qui ont l'impression ce matin qu'à quelque part sur la route, ils ont lâché ta main, la main de la passion avec toi, parce qu'ils ont vu peut-être une belle glace plus attrayante, et puis qu'ils ont un réajustement à faire dans leur vie, peut-être quelques degrés, puis peut-être beaucoup plus, mais finalement Seigneur c'est la même chose, on veut juste se remettre devant toi et te dire Seigneur tu es la source de l'amour et j'ai besoin que tu viennes en moi, que tu viennes revivifier tout ça, que tu viennes remettre du feu en moi, du feu pour toi, du feu pour mon conjoint, du feu pour mes enfants. J'ai besoin de cette source d'amour dans ma vie. Je veux crier à toi ce matin. Pardon, pardon pour toutes les fois où je suis tellement centrée sur le faire et où j'ai même plus le temps de m'arrêter pour t'aimer, pour voir tes bontés, pour être reconnaissante pour tout ce que tu me donnes. Seigneur, je veux vraiment te laisser inonder à nouveau mon cœur pour raviver ma passion pour toi.
Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Si c'est toi ce matin, reçois. Reçois cette grâce. Cadeau immérité de Dieu. Déversement de puissance par son esprit dans ton cœur maintenant. Reçois. Mets juste tes mains. Tu sais, quand on veut recevoir, si on te donne un cadeau, tu as de la peine avec les mains en croix, comme ça. Alors juste pose tes mains comme ça sur tes genoux, puis tu dis, ben si tu as besoin, viens Seigneur. J'ouvre les portes du roi glorieux et je reçois son Saint-Esprit, sa puissance de vie qui amène cet amour, cette présence dans ma vie et qui fait sauter les barrages. Sauter avec l'amour, tout pète, tout explose. Aucun pardon ne peut résister à l'amour. Aucune chose méchante ne peut résister à son amour. L'amour de Dieu bannit la crainte. T'as peur? L'amour de Dieu bannit la crainte. Reviens à ce premier amour. Et c'est dans sa présence, avec lui. Alors il dit, je viens à toi. Et ta réponse est, je viens à toi. Je suis en toi. Je marche en toi. Je demeure en toi. Je suis dans la parole. Tu es la parole. Tu es la vérité. Tu es la vie. Je marche avec toi, dans ton amour. Et Père, merci pour cette grâce. Parce que dans la grâce, je n'ai pas besoin de faire. Je n'ai pas besoin de faire des œuvres pour te plaire. Comme dans ce monde. Je peux venir tel que je suis. Moche, joli, beau, grand, large, petit, malade, bien portant. Tout, Seigneur. Je peux venir comme je suis. Et tu m'aimes. Parce que tu as dit que si je te connaissais, j'étais ton enfant. Et que tu m'aimais. D'un amour complet et parfait. Merci, Père, pour cette visite ce matin. Merci pour ce message. Merci parce que tu ne viens pas nous corriger avec un bâton, nous frapper comme on a eu entendu ce Dieu père fouettard, mais un Dieu d'amour qui nous avertit, qui nous dit, souviens-toi, souviens-toi, ouvre tes mains et reçois. Moi, j'aime ce Dieu. Il est tellement bon. Merci pour cette grâce. Et je vous invite comme dans une prière, qu'on puisse prendre ce chant. Tu es une encre pour mon âme. Et qu'on puisse finir ce matin dans cette présence avec lui. Merci Catherine pour ce message qui coule du trône de Dieu vers nous ce matin. Et nous le recevons, Seigneur, et nous voulons dire un amen. Un amen, un oui, c'est vrai. On veut revenir à ce premier amour. Et on veut venir dans ta présence plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres pensées? Si vous avez des pensées qui viennent maintenant, si vous voulez venir encore partager, vous pouvez. Ou un témoignage. Sinon, on va chanter. Montez-vous libre. Ensemble. Une communauté unie. Alléluia. Alors allons. Allons vers Dieu. Merci Sarah.